France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet campagne, bonjour. Aujourd'hui, en catégorie responsabilité citoyenne, vecteur de démocratie locale et de compétences communales, oui, je sais, ça fait beaucoup, je vous propose le tremplin des élus. Il s'agit d'une plateforme d'information et de formation à destination des élus locaux. On peut être animé de convictions en siégeant à un conseil municipal, reste à affiner ses connaissances en matière de gestion communale et de politique publique. La chose n'est pas simple et nécessite des formations spécifiques, ce que cette plateforme propose de réaliser. Nous en parlerons dans la deuxième partie de ces carnets, mais place tout d'abord aux initiatives en Seine-et-Marne avec une nouvelle fabrique de territoire qui va conduire l'ouverture de tiers-lieux dans le département.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Didier Gallet, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Didier, vous êtes cofondateur et président de Brinov. J'ai rappelé l'existence de Brinov. Brinov, créé en 2011, était le premier living lab rural d'Île-de-France, un living lab rural.
Oui, ça paraît bizarre comme interprétation, mais un living lab, déjà, c'est un label reconnu par l'Europe. Rural parce qu'on s'intéresse à la ruralité, et le nôtre en particulier s'intéressait particulièrement au moment du déploiement du très haut débit en France, à l'égalité d'accès des services et à l'égalité d'accès au numérique, dont la compréhension numérique. Oui.
Et l'accès au numérique s'est arrangé depuis ?
C'est mieux. Le très haut débit se déploie. Par contre, la compréhension du numérique, des usages du numérique et de tout ce qu'on peut en faire, c'est encore en expérimentation.
Vous avez été labellisé Fabrique de territoire. C'est un nouveau programme pour les nouveaux lieux, nouveaux liens pilotés par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Ça veut dire que quand on devient fabrique de territoire, on a un petit peu le référent pour que d'autres prennent la suite, en fait, du même type d'action, c'est-à-dire, entre autres, l'ouverture de tiers-lieux.
Alors, c'est un peu comme ça qu'on l'a imaginé, effectivement. La note de fabrique, hein, c'est une expérimentation nationale, donc qui désigne maintenant 300 lieux un peu partout en France. La note, en tout cas, est doublement originale. D'une part, elle est à l'échelle d'un département, plutôt bien sûr sur la partie rurale et même périurbaine. Et la deuxième originalité, c'est qu'on s'intéresse à la constitution d'un réseau de tiers-lieux, plutôt hybride, pas qu'à vocation économique, on en a deux, mais souvent sont des associations, des collectifs qui portent des lieux de rassemblement, des lieux pour déployer des services, des lieux pour se rencontrer. Et on encourage à travers cela le faire-faire, l'interconnaissance. Et c'est là où l'apport de Brinov est intéressant, puisque Brinov, depuis 10 ans, travaille sur des services, l'accessibilité à la santé, l'accessibilité à la culture, à la formation. Et c'est ça qu'on apporte dans le dispositif pour que justement ces expérimentations locales puissent permettre de travailler sur un modèle, je dirais, à la fois économique et social, plus pérenne.
J'avais cité un exemple il y a quelque temps, ce que vous faites auprès des personnes touchées par le diabète.
Oui, c'est un exemple. Alors, on travaille avec un collectif qui s'appelle Réves Diab. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de parler du consortium, Philippe, puisque la fabrique s'est constituée avec un consortium dans lequel on retrouve les maires ruraux de Seine-et-Marne. D'ailleurs, notre comité de pilotage est animé par François Desson, qui est le président des maires ruraux. Ouais. On retrouve l'université Gustave Eiffel, on retrouve des collectivités, des tiers-lieux, une pluralité d'acteurs, même une grande entreprise, AG2R La Mondiale. Et il y a un collectif de médecins et d'infirmiers qui s'appelle Réves Diab, avec lesquels on travaille depuis plusieurs années maintenant sur le diabète et le suivi du diabète en milieu rural, avec un projet qui s'appelle Diabète 2.0, dont l'enjeu est de faire venir justement les diabétiques d'un territoire qui ne se connaissent pas vers un tiers-lieu, dans lequel ils peuvent avoir accès à un certain nombre de services, mais accompagnés, j'insiste, humainement par une infirmière, pour suivre des ateliers pédagogiques, pour avoir des consultations à distance. Et puis pour créer une forme de communauté locale qui peut s'autodynamiser et s'encourager dans un meilleur suivi de leur pathologie. Et puis depuis quelques temps, on s'est intéressé aussi à une forme mobile qu'on a d'ailleurs imaginée avec des étudiants de l'ICAM, qui est une école d'ingénieurs, pour aller encore au plus près sur les territoires des personnes. Et là, plutôt dans un enjeu de sensibilisation et de prévention, donc sur un public beaucoup plus large, qui n'est pas forcément immédiatement concerné par le diabète, mais en tout cas qui peut s'y intéresser, qui peut être interpellé par le sujet, sachant qu'il y a un enjeu sur les jeunes en particulier à cause de la sédentarité et puis souvent de la malbouffe, d'un diabète précoce, qui peut aussi avoir des conséquences graves. Donc un vrai travail de sensibilisation en tout cas.
Parmi les tiers-lieux qui font vivre le projet de fabrique de territoire, il y a ce lieu étrange, une ancienne auberge de charme qui s'appelle Au bout du monde.
Eh oui, Au bout du monde. Alors, pour la petite histoire, Au bout du monde, c'est en bord de Morin, et il y avait un pont qui rejoignait les deux rives qui n'est plus praticable aujourd'hui pour des raisons de sécurité. C'était une auberge qui avait une réputation, mais qui a été fermée pendant plus d'une dizaine d'années. Et une idée, en tout cas, qui a germé dans la tête de Jean-François Bricout, qui a repris le lieu en disant « Mais moi, je vais faire un tiers-lieu. Je vais à la fois conserver la cuisine parce que je suis intéressé pour encourager des formations en cuisine. Je veux conserver aussi les chambres parce que ça peut me permettre d'intéresser des communautés, des séminaires, etc. Et je veux que ce lieu soit un lieu de vie où on peut attirer des télétravailleurs, où on peut attirer des entrepreneurs, où on peut créer de l'animation. Et puis le week-end, ça peut déborder sur une forme plus guinguette. En tout cas, c'est ce à quoi il s'emploie aujourd'hui.
Rassurez-nous, Didier, lorsque vous obtenez ce label, il y en a eu 300, une fabrique de territoire, dont 150 en milieu rural. Au moins, la parité est là, et tant mieux. Vous avez droit à une enveloppe.
Bien sûr, qui est validée chaque année, mais de 150 000 euros sur les 3 ans. Mmh. Ce qui nous permet de constituer ce réseau, de l'animer, d'expérimenter, d'amorcer des choses. Et aussi, je pense que la dimension nationale est hyper intéressante, puisque dans l'interconnaissance que j'évoquais à notre niveau, elle se passe aussi au niveau national. Et on peut découvrir à travers ces 300 fabriques plein de ressources, plein d'idées, plein de bonnes volontés. Ouais, ouais. Et ça nous permet aussi d'avancer plus vite sur des idées, des exemples qu'on peut dupliquer et essayer de reproduire. Reproduire chez nous.
En tout cas, Brinov est en train d'agrandir sa famille par cet intermédiaire. Le site, c'est brinov.fr et pour la fabrique, c'est très simple, c'est fabrique77.fr. Merci Didier.
Merci beaucoup et bonne continuation.
France Inter, carnet de campagne.
Bravo à River Project, jeune association basée près de la Ferté-sous-Jouarre dans le département de Seine-et-Marne, qui participe à la protection de la Marne, dont les berges sont des décharges à ciel ouvert par endroits. Une des dernières interventions de l'association a nécessité le recours à des engins de levage, à des plongeurs expérimentés pour extraire des carcasses de voitures balancées dans la rivière. 8 épaves ont été retirées lors des dernières interventions et plusieurs tonnes de ferraille et de plastique ont été retirées, réorientées vers les filières de traitement. Hervé précise dans son courrier que l'association a su fédérer depuis sa création en juin dernier les agriculteurs locaux, les municipalités, il y a 13 communes, voies navigables de France et les acteurs du tourisme. Il faut vraiment les suivre, les aider. Si vous voulez donner un coup de pouce à ce groupe vraiment bien, n'hésitez pas. Il y a une page Facebook avec un lien à nos pages d'émission. Antoine Fabry, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous avez fondé avec Pierre-Nicolas en 2019 le Tremplin des élus. Une plateforme qui veut former les élus locaux selon leurs besoins. C'est génial parce que je suis allé voir, il y a des entrées gratuites, on peut voir des tutos, de vidéos d'une quinzaine de minutes avec des dossiers très clairs sur les politiques territoriales, politiques publiques, le droit public, etc., etc. C'est une idée fabuleuse. Qu'est-ce qui vous a pris de créer ça?
Écoutez, on est parti d'un constat assez simple et que beaucoup de gens ont pu faire aussi, qui est que pour être élu, il n'y a pas de diplôme, qui est une très bonne chose. Mmh. C'est le principe de la démocratie locale. Mais pour le coup, ça a un revers. On n'a pas forcément toutes les billes en main pour mener à bien un mandat. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin de formation très important chez les élus locaux, notamment dans les zones rurales, qui sont les plus éloignées des centres de décision, des grandes métropoles urbaines. Et on s'est rendu compte surtout que ce besoin ne se traduisait quasiment jamais en réelle demande. Et donc notre objectif, en créant le tremplin, ça a été d'aller un peu au-devant des élus et de leur expliquer le plus possible que en explicitant les choses, en réfléchissant à ces problèmes, on pouvait trouver des compétences localement, pas très loin de chez soi, qui pouvait former les élus du territoire sur telle ou telle question. Et surtout, c'est là qu'on a eu l'idée de créer cette plateforme avec des contenus qui sont accessibles pour le coup vraiment quand on veut, sur son téléphone, sur une tablette, sur un ordinateur, et qui permettent aux élus de se former à leur rythme et un peu quand ils veulent. Mmh. Mais évidemment, l'un des intérêts de cette plateforme surtout, c'est de permettre à n'importe quelle personne aussi qui est intéressée par la vie locale, qui a le projet, pourquoi pas, de se présenter un jour avec un groupe de gens de sa commune à une élection locale, de pouvoir le faire en ayant un certain nombre de connaissances qui vont lui permettre de mener à bien ses projets.
Alors, via la plateforme, on peut avoir accès, en tant qu'élu, à des formateurs, des formatrices proches de chez soi. Vous avez répertorié ces formateurs ?
Exactement. Alors, c'est pas réel, c'est pas tant que ça via la plateforme, mais c'est que en réalité les élus ont souvent, quand ils se tournent vers nous, un réflexe, mais qui est le réflexe de beaucoup de gens, de nous demander, en l'occurrence, si nous avons un catalogue et ce qu'on peut faire pour eux. Et c'est là qu'on intervient, en réalité, où la plateforme se fait en réalité par au téléphone ou par courriel, parce que on réfléchit avec eux à leurs besoins. Et c'est en discutant avec les élus, en comprenant un peu leurs problèmes, que là, on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont effectivement dans notre répertoire de compétences locales, qui peuvent aller au plus près des élus, et le plus souvent, c'est simple, c'est dans leur commune, directement, pour animer des demi-journées, des journées complètes de formation sur tel sujet d'urbanisme local, sur tel enjeu d'organisation du travail entre les élus, ou entre les élus et les agents de la commune, dans les relations avec les associations, etc., etc. Ça va nous permettre d'avoir une réponse de formation la plus adaptée possible aux enjeux propres d'un territoire. Ouais. Et comme on intervient dans vraiment aujourd'hui tous les départements quasiment de France métropolitaine et aussi de plus en plus en Outre-mer, eh bien, on est capable de répondre à ça à chaque fois.
Il y a des publications de dossiers pratiques à destination des élus locaux réalisées par la Caisse des dépôts. Vous, vous êtes parfaitement complémentaire. Vous avez travaillé avec, cette Caisse des dépôts ?
Alors, nous, on travaille régulièrement avec la Caisse des dépôts pour une raison simple, c'est que il y a un organisme financeur de la formation pour les élus locaux qui est la Caisse des dépôts.
Ah oui.
Chaque élu local dispose d'un DIF élu, une somme d'à peu près 400, même très précisément 400 euros par an qu'ils peuvent mobiliser. Et nous, on vient en complémentarité. Évidemment, tout le monde n'a pas la même disposition naturelle à aller consulter des sites internet, feuilleter un manuel, lire des newsletters régulièrement. Et du coup, nous, on vient compléter cet apport de connaissances en ayant une approche un petit peu plus territorialisée.
Et on apprend que, donc, effectivement, les élus ont droit chaque année à une enveloppe de 400 euros par an dans le cadre du DIF, comme vous le disiez, c'est le droit individuel à la formation. Est-ce que ce DIF est systématiquement utilisé ?
Il est assez fréquemment utilisé quand nous travaillons avec les élus. Les élus, en réalité, ont deux sources de financement pour se payer une formation, d'une certaine façon. Soit ils vont se tourner vers le budget de leur commune, ou de leur communauté de communes, du département ou de la région, ou ils vont se tourner vers un DIF élu, qui est un dispositif un peu de solidarité entre tous les élus du territoire et qui permet à un conseiller municipal d'une commune de 60 habitants de disposer des mêmes droits individuels à la formation qu'un président de région. Et du coup, le plus souvent, ce financement est utilisé. Tout est possible.
Tremplindeselus.fr pour l'adresse. Merci Antoine.
Merci Philippe, à bientôt.
On poursuit notre route en Seine-et-Marne avec le jeu des 1000 euros. Troisième étape à Chailly-en-Bière avec Nicolas Stoufflet.